Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Est-ce que l'économie bleue peut participer à une relance durable de l'économie? C'est la question que nous allons nous poser dans cette émission avec le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie qui a mené un important travail de consultation en septembre dernier qui a abouti à la mise en œuvre de certain nombre de projets dont nous allons parler avec nos invités. Marc Sabatier qui est le président de ce cluster maritime, Soizic Fleury qui en est le manager et Hugues Danis qui est membre du conseil d'administration du cluster. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment détailler un peu plus et rentrer dans ces projets concrets qui sont en train d'être lancés ou de se mettre en œuvre, Marc Sabatier. Mais avant cela, peut-être rappeler la démarche initiée par le cluster maritime. Pourquoi vous avez lancé finalement cette consultation? Qu'est-ce que vous en attendiez?
Alors, tout d'abord, on représente à peu près une centaine d'entreprises qui sont adhérentes au cluster. Suite aux événements du mois de mai, on voulait apporter notre pierre à l'édifice. On s'était dit que s'il y avait des fonds qui seraient alloués pour l'économie maritime, on voulait participer et surtout être force de proposition. Donc on a fait un petit groupe restreint et on s'est dit qu'il faut aller assez vite et on s'est adjoint l'aide d'une société en métropole pour pouvoir prioriser. Au départ, je voulais mettre en avant trois projets. On s'est dit que c'était un petit peu réducteur. On en a bien sûr plein dans la besace. Dans le livre bleu qui a été fait par le cluster maritime, il y en a 150. Mais là, la donne était changée, quoi. Il fallait revoir tout.
L'idée, c'est de trouver des filières de développement, des filières qui s'inscrivent dans le temps et pas simplement pour répondre aux urgences.
Tout à fait. Alors, il fallait le but de la consultation, c'était des projets structurants qui amenaient le développement d'une économie au niveau du maritime.
Alors, on va parler de la démarche parce qu'on va s'arrêter un instant quand même sur cette consultation, Hugues Danis, sur laquelle vous avez notamment travaillé, qui était un petit peu originale en Calédonie. C'est une démarche qui n'avait jamais eu lieu de cette façon-là, en tout cas.
Effectivement, en fait, comme l'a expliqué Marc, à la suite des travaux qui ont été faits sur le livre bleu, on a essayé de reprendre un petit peu ces travaux et de les remettre au goût du jour, mais sur un format complètement différent. Donc, en partant sur le constat qu'on n'est jamais plus fort à plusieurs que tout seul, on s'est dit on va partir sur une démarche d'intelligence collective et mettre en place un dispositif participatif de consultation et de prise de décision. Cependant, on l'a, je pense, tous vécu dans notre carrière ou dans notre activité, ces prises de décision collective, elles mènent pas toujours aux meilleures décisions. Il y a des biais de conformisme, il y a des biais d'ancrage, et il se trouve que quand on se connaît tous, il y a un lien social, et le lien social fait qu'on peut aller sur une décision qui fait consensus, mais qui n'est pas forcément la meilleure. Donc on a décidé de changer un petit peu, de retourner à la table, et de passer à une méthode qu'on appelle la sagesse des foules. Donc on garde cette idée qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, mais par contre, il faut que ça soit organisé. Alors organiser comment? Il y a trois grands principes. Il faut la diversité des acteurs. Donc on a des acteurs qui sont extrêmement variés. On a sollicité l'ensemble des membres du cluster, c'est une centaine de membres, qui peuvent être chefs d'entreprise, qui peuvent être chefs d'exploitation, qui peuvent être directeurs administratifs et financiers, qui ont des profils complètement divers. Il faut que ces acteurs puissent aussi réfléchir et travailler de façon indépendante pour éviter ces biais de conformisme, et ça c'est extrêmement important. Et puis il faut que ce soit décentralisé, au plus près du terrain. Et finalement, il faut un système qui permette d'agréger tout ça. Et donc c'est ce que Marc a expliqué, on a travaillé avec la société Hypermind, qui est une société qui fait du marché prédictif. Je pense qu'on en a tous entendu parler, notamment le marché prédictif, c'est Polymarket aux États-Unis, hein, 4 milliards de paris sur les élections américaines, où des amateurs vont parier sur le résultat des élections, et en fait, une multitude d'amateurs est plus précise que des statisticiens professionnels ou des pronostiqueurs. Voilà, c'est ça la sagesse des foules, c'est de prendre des gens variés, les mettre ensemble, de façon organisée, avec méthode, pour arriver à un consensus, mais un consensus fort et surtout raisonné.
Alors sagesse des foules, est-ce que ça veut dire que la foule des adhérents du cluster maritime a participé à cette consultation et s'est engagée aussi dans cette démarche, parce qu'il fallait évidemment convaincre tout le monde?
Alors tout à fait, hein, donc Marc pourra sans doute compléter, mais on a une centaine de membres, il y en a 64 qui ont participé, donc plus des deux tiers. Sur cette plateforme, donc on a voulu que ça soit relativement court, donc ça s'est réalisé en 2 mois, en 2 étapes, une phase de consultation où ils ont pu proposer les idées qu'ils souhaitaient voir mettre en place pour porter une relance économique rapide, durable et structurante de l'économie maritime. Et ces 64 membres ont proposé des idées, première phase. Deuxième phase, ils ont pu participer à une phase de vote. Ça, c'est la méthode d'agrégation. C'est un vote qui est également sur une méthode un petit peu innovante, où au lieu de juste de voter pour et contre, on va faire un pari avec un nombre de jetons limité, ce qui force les gens à deux choses. Le choix, donc on choisit, on ne met pas tout, on ne dit pas on veut tout faire. On sait qu'on ne pourra pas tout faire. Il faut choisir les projets les plus prioritaires. Et aussi rester objectif par rapport à sa propre activité et pourra éventuellement parier sur des activités qu'on pense être porteuses, même si elles ne nous affectent pas directement.
Mmh. Alors cette démarche était originale, elle a rencontré du succès auprès des adhérents du cluster maritime. Ça veut dire, Marc Sabatier, en quelques mots, puis après on va passer évidemment au projet, que ce cluster, il a une vraie raison d'être, il a une vraie vitalité. Enfin voilà, on sent que les gens sont motivés par les chantiers et les projets qui arrivent. Hein.
Tout à fait. Donc on représente vraiment beaucoup de métiers dans le maritime. Et notre volonté au sein du bureau et du conseil d'administration, c'était vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice. Mmh. Voilà.
Alors j'imagine que tout cela va devoir être mis en musique maintenant que ces projets ont émergé. Ça va être en partie, j'imagine aussi votre travail, Soizic Fleury, c'est bien ça. Il va falloir coordonner l'ensemble de ces projets. Il y en a 5, on va les détailler, mais il va falloir les faire avancer les uns après les autres.
C'est ça. Ça a déjà été l'organisation. Il y a eu un pilote pour chacun des 5 projets qui a coordonné son équipe et ils ont travaillé en distanciel ou en présentiel sur l'élaboration de ces fiches projets qu'on a présentées officiellement aux différentes institutions politiques et puis qu'on a maintenant largement distribuées et qui sont d'ailleurs accessibles à tous nos membres également et sur notre site internet. Donc ceux qui ont la curiosité d'aller voir verront que ce sont des fiches déjà bien abouties avec des projections de chiffre d'affaires, de nombre d'emplois, de structuration de filières. Donc ce travail se voulait effectivement sur une base commune, assez succincte dans un premier temps, être extrêmement structuré. Donc là, effectivement, la suite, ça va être, on a déjà commencé, et c'est pour ça qu'on est là, c'est faire connaître ces projets, les partager au plus grand nombre. S'il y a des acteurs qui veulent raccrocher les wagons... Il est toujours temps, on en est qu'aux prémices. Et effectivement, là, l'idée, ça va être aussi de s'inscrire dans les groupes de travail du PS2R.
Alors ça, c'est un point important. C'est-à-dire que le travail mené par le cluster n'est pas un travail hors sol, hein, si j'ose dire, mais il s'inscrit aussi dans les mesures, ou en tout cas dans les directions mises en place pour la reconstruction, pour la relance de l'économie, etc. Hein. Il faut s'inscrire dans des schémas qui existent déjà.
C'est ça. Donc on n'a pas encore lancé cette phase des travaux, mais ce sera effectivement... L'enjeu des mois à venir, c'est de s'intégrer dans les COTEC et les COPIL du PS2R.
Marc Sabatier, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là ?
Non. On veut vraiment apporter...
Votre pierre à l'édifice.
Ouais. Comme je l'ai déjà dit.
Exactement, oui.
Je me répète, mais c'est vraiment ça notre démarche. Ce n'est pas une démarche personnelle, c'est une démarche collective. Et là, il faut faire avancer les sujets et puis il faut être force de proposition.
Alors, on va parler de ces cinq projets hein, qui ont été retenus au terme de cette démarche. On va peut-être pas les développer tous, mais quand même, on va s'arrêter. Je vais les citer. Il y a le développement de l'aquaculture durable en Calédonie. Il y a la mise en place d'une filière de déconstruction navale. Il y a l'idée de faire de Nouméa une base technologique marine et un port scientifique pour le Pacifique Sud. Il y a la question de la mobilité maritime du Grand Nouméa. Et enfin, faire de la Nouvelle-Calédonie un acteur maritime régional majeur avec des infrastructures de levage adaptées aux navires de plus de 1000 tonnes. Alors, dans ces 5 projets, Marc Sabatier, il y en a déjà qui étaient en cours. Il y a des choses déjà lancées.
Oui, il y a déjà pas mal d'études qui sont menées actuellement. On attend d'ailleurs des résultats des études pour le port scientifique. Donc, c'est mené par le PANC.
Le port autonome.
Le port autonome, oui. Les infrastructures... de levage adapté. Actuellement, la cale de halage ne peut se lever que des bateaux de 1000 tonnes, donc ça réduit fortement les capacités. Tous les bateaux de la Marine nationale ne peuvent pas être sortis. Il y a de futurs bateaux scientifiques qui vont arriver sur le territoire à l'échelle de 2029-2030. Donc on va augmenter le nombre de bateaux à pouvoir être traités sur le territoire. Il faut savoir qu'au niveau maintenance industrielle, la Calédonie est vraiment fortement pourvue par des gens qui sont spécialisés. On s'est travaillé pour des usines assez complexes et on a donc tous les personnels pour faire ça. Actuellement, les usines sont en difficulté. On a peur de perdre les compétences. Alors que dans beaucoup de pays, on en discutait avec nos collègues de Polynésie et de La Réunion, ils n'ont pas obligatoirement ce savoir-faire au niveau industriel parce qu'il n'y a pas d'industrie. Et par contre, eux, ils ont des moyens de levage. Par exemple, pour l'activité maritime. On a une baie, une grande rade et une petite rade. C'est un site exceptionnel qu'on n'a pas la chance d'avoir, par exemple, ni la Réunion, ni la Polynésie. C'est beaucoup plus étriqué. Et on est en sous-capacité d'équipement structurant, quoi.
Alors, sur ce point-là, on peut rester sur la question des infrastructures de levage. Vous l'avez dit tout à l'heure, Soisic-Fleury, devant chaque projet, il y a un chiffrage qui a été fait, il y a le nombre d'emplois que ça pourrait générer. Voilà. Sur un projet comme celui-là aujourd'hui, est-ce que vous avez des perspectives un peu plus précises ?
Alors là, je vais laisser répondre.
Ah, c'est Hugues, c'est qui est le spécialiste.
Je suis un spécialiste et en plus pilote du projet. Donc, comme l'a expliqué Soisic, à l'issue de cette consultation, on a créé des groupes de projets qui ont regroupé des parties prenantes et des experts pour mener à bien cette fiche projet. Alors, sur la question des infrastructures de levage, on est vraiment sur un projet qui est structurant et qui, c'est aussi un message qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, n'avance pas suffisamment rapidement. On en parle depuis des années en Nouvelle-Calédonie. Les enjeux sont réels, les besoins sont réels.
Alors, les enjeux et les besoins, c'est quoi ? C'est simplement que des entretiens de bateaux puissent se faire en Calédonie plutôt que d'avoir à envoyer les bateaux dans d'autres pays.
Exactement, il y a un enjeu économique. Il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu de souveraineté. Si vous n'êtes pas capable de faire... On parle de maintenance. Alors, pour la maintenance, c'est planifié. Vous pouvez envoyer votre navire à l'étranger. C'est une perte économique sèche pour la Nouvelle-Calédonie. Mais en cas de réparation d'urgence, comment vous faites ? Et donc là, on parle de continuité territoriale, de surveillance du territoire, que ce soit le parc naturel de la mer de Corail ou les travaux de l'armée. On est bien obligé d'avoir des capacités de réparer nos navires localement. Donc c'est ça, les enjeux, ils sont quand même majeurs.
Alors, deux questions complémentaires. Vous avez chiffré un peu en termes d'emploi ce que ça pourrait...
Le projet représente en termes d'emploi deux volets. Il y a déjà le volet de la construction.
Alors, il faut de l'argent public aussi pour ça.
Il faut de l'argent public. Il y a la phase de construction. Et ce que les membres du cluster mettent en avant, c'est que la phase de construction peut générer de l'emploi local directement. Donc ça peut aller relativement rapidement.
Dans un secteur qui est en plus en difficulté, qui est le BTP.
Exactement. Et dans une deuxième phase, la phase d'exploitation, qui permettra de gérer de l'emploi local tant qualifié que non qualifié sur tous les domaines du maritime. Ils sont extrêmement variés, comme l'a dit Marc. Ça couvre tous les domaines industriels. Et puis, c'est générateur d'emplois également par la diversité ou la diversification régionale que ce type d'infrastructure peut apporter. On peut capter des navires qui sont présents dans le bassin régional qu'on n'est pas capable de capter par manque de flexibilité des infrastructures.
Est-ce que vous êtes mis aussi dans chacun de ces projets, et c'est le cas pour ces questions des infrastructures de levage, des dates ou des deadlines en quelque sorte en termes d'opérabilité et d'effectivité de ces projets ?
Alors, pour chaque projet, en réalité, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prévoir la prochaine action. C'est-à-dire que quand on va solliciter le gouvernement ou les décideurs publics, c'est-à-dire voilà, sur chaque projet, voilà la prochaine action qui est à mener pour que ce projet puisse avancer d'une marche. On est sur un nombre de projets qu'on avait voulu limité, donc 5 projets. On montre la démarche complète, où on est aujourd'hui, comment on fait pour arriver demain. Mais par contre, pour arriver à un projet structurant comme la filière de réparation de maintenance navale ou la déconstruction ou l'aquaculture, il faut bien qu'on avance pas à pas. Et ce qu'on a voulu, on a voulu être très clair sur ces pas-là. Et donc sur chaque fiche, le prochain pas est indiqué pour que le décideur puisse l'enclencher.
Alors, sur ce projet-là, quel est le prochain pas que vous devez franchir ? Je ne vais pas vous demander toutes les étapes, mais le prochain.
Alors là, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'étude de cadrage. Alors, ça peut paraître un peu étonnant. On est sur un projet dont on parle depuis des années. L'étude de cadrage n'a jamais réellement été menée. Donc, on parle de l'étude de cadrage des besoins locaux et régionaux. Pour quel type de navire ? On dit qu'il faut une infrastructure de plus de 1000 tonnes, mais doit-elle être de 2000 tonnes ou de 3000 tonnes ? Doit-on faire que des bateaux civils ou également des bateaux militaires ? Donc ça, c'est l'étude des besoins. Et après, l'étude technique, sommaire, pour aller à l'étude économique et l'étude financière. Ça paraît étonnant, mais ça fait des années qu'on demande que ces études soient menées. Et on en est toujours là. On demande que ces études soient réellement inscrites, budgétées, et également qu'il y ait un maître d'ouvrage, on va dire, public, qui s'en empare et qui porte le sujet.
Alors, un des autres projets qui a émergé de cette consultation, c'est la mise en place d'une filière de déconstruction navale. On a eu l'occasion déjà dans cette émission de voir que c'était une filière qui avait déjà démarré en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui est prévu dans ce projet ? Peut-être c'est Marc Sabatier qui peut en parler. Qu'est-ce qui est prévu dans ce projet ? Comment les choses vont avancer avec les acteurs locaux qui sont déjà aussi engagés dans cette démarche de déconstruction ?
Oui, alors ça fait déjà 2-3 ans qu'il y a des gens qui se sont proposés de faire ça. Il y a eu déjà des bateaux de déconstruits. Alors les bateaux, ça va du bateau de plaisance en fil de verre, des bateaux
qui est en
bois,
fin de vie ou qui a eu un accident.
Oui, voilà, des bateaux. Alors la durée d'un bateau en fibre, ils l'ont estimé entre 25 et 30 ans. Là, il apparaît qu'il y aurait 8000 bateaux à déconstruire à moyen terme. Alors plutôt que de le laisser au fond du jardin, comme c'est souvent le cas, ou alors au fond de la baie dès qu'il y a un coup d'ouest, parce
qu'il finit, il finit sur la route, oui.
Il finit à la côte. Donc on sait qu'il y a déjà le gisement historique. Ensuite, il n'y a pas que ça. Vous voyez, dans toutes les baies autour de la Calédonie, vous avez plein de chalands qui n'appartiennent plus à personne. On ne sait plus d'où ils sortent. Il y a des anciennes structures, des wharfs, des vieux wharfs. Donc la déconstruction navale, ce n'est pas uniquement détruire les bateaux, c'est essayer de... Donc il y a un stock initial, il faut des fonds. Il était d'habitude d'abandonner le chaland, il se détruisait au fur et à mesure, mais on a quand même pas mal pollué à la Calédonie.
C'est ça, il y a des enjeux environnementaux en plus, derrière la mise en place d'une filière de cette nature.
Bien sûr, donc il y a eu des essais qui ont été faits. Là, c'est pareil, vous verrez que tous les quatre projets, hormis l'aquaculture, sont quand même interconnectés, parce que si on a les moyens de levage, eh ben, on peut sortir des bateaux pour les déconstruire. C'est un petit peu tout lié, quoi, hein. C'est pas par hasard, quoi.
Alors qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est justement cette question de la mobilité maritime du Grand Nouméa.
Voilà.
Alors, on en parle beaucoup en ce moment.
Oui,
évidemment. On sait qu'il y a des projets en cours, qu'il y a eu des tentatives de mise en place d'un certain nombre de navettes aussi qui existent déjà entre Moselle et Nouville, hein, par exemple. Oui. C'est tout ça que vous souhaitez développer ?
Alors là, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On en parle depuis longtemps pour faire une navette du Mont d'Or jusqu'à Nouméa, mais il n'y a pas que, on s'en est bien rendu compte. C'est les événements qui ont mis en exergue le fait qu'il fallait transporter les pauvres gens qui étaient coincés au Mont d'Or. Simplement, vous avez un gros tremblement de terre, on en a eu un il n'y a pas longtemps. Vous n'avez plus de pont à Dimbéa, vous n'avez plus de pont à la coulée. La Calédonie, elle est, si on n'a pas prévu une solution de secours pour pouvoir pallier à ça. Donc il faut s'imaginer que ce n'est pas uniquement par rapport à la tribu de Saint-Louis, mais ça peut être un enjeu important. Dans beaucoup de pays dans le monde, vous avez des navettes. On parle de Sydney, mais il y a un nombre de populations qui est vraiment...
C'est le royaume de la navette à Sydney, oui, ça c'est sûr que...
Voilà, c'est ça. Et alors les trajets sont un peu différents, parce que d'aller de Nimbo à la Belle-la-Moselle ou aller au Mont d'Or, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes bateaux. Essayer de faire des choses décarbonées, c'est pas mal. Il y a l'ACE qui a un projet pour faire une navette Moselle, Belle-Nimbo. Lapsus et l'université. Ensuite, on peut aller, c'est assez protégé, on peut aller aussi du côté de Nouré, de la Pointe à la Dorale, du Médipôle. Donc, il y a vraiment, un besoin. Par contre, il faut des infrastructures, quoi.
Alors, on a déjà parlé de trois des cinq projets là, qui sont en train de se mettre en place, en tout cas que le cluster va pousser. Soisic, Fleury, on s'aperçoit aussi que dans ces projets-là, il y a déjà de nombreux acteurs différents qui sont engagés. Donc, il va falloir les faire travailler ensemble. Il va falloir essayer de fédérer aussi les énergies autour de ces projets.
Alors, de fédérer et puis aussi de trouver des transversalités. Donc là, on a déjà commencé, on était en réunion ce matin, on a commencé à interroger les pilotes et leurs projets sur leurs besoins de formation. Parce que effectivement, ça va passer aussi par... tout à l'heure, Marc parlait de garder les compétences. On peut aussi upgrader ces compétences en leur rajoutant un volet maritime, par exemple, avec une formation de montée en compétences. Donc, sur l'ensemble des projets, on va aussi travailler en transversalité et en particulier sur la montée en compétences et la formation. Et ensuite, en effet, après la période de fête, relancer les cycles des travaux et voir qui a envie de continuer à s'investir, est-ce que les groupes vont grossir, qui souhaite participer dans les travaux du PS2R. Voilà, après, ça va être au bon vouloir et à la disponibilité de chacun.
Mais il va falloir des engagements des uns et des autres pour que ces projets avancent.
Concrètement.
Ça, nous, on se tient prêts à aider la Calédonie, tout simplement.
Alors, un mot quand même sur l'un des projets qui est de faire de Nouméa une base technologique marine et un port scientifique pour le Pacifique Sud. Ça concerne notamment Nimbo. Hein, vous l'avez un petit peu dit sans le dire tout à l'heure.
Pas obligatoirement,
mais
fait.
Mais
pas que.
Un peu, mais si vous voulez, nous, on n'est pas là pour dire il faut que ça soit fait là.
Oui.
Nous, on est pour dire qu'il faut faire quelque chose.
Et vous êtes prêt à apporter votre apport technique et,
Tout à fait. Alors, il y a faire. Une étude qui a été commanditée par le port autonome, qui doit sortir, j'en ai parlé tout à l'heure, assez bientôt. Ils ont un petit peu anticipé sur le nombre de bateaux qu'il allait avoir. Il va y avoir deux nouveaux bateaux qui vont arriver en Nouvelle-Calédonie à l'échelle de 2028. Un bateau de la CPS pour le contrôle des pêches des tonidés et le bateau qui sera un bateau... pas un brise-glace, mais qui aura des capacités pour aller en Antarctique, qui s'appelle le Michel Rocard. Donc c'est un gros bateau qui va remplacer l'Antea actuellement, qui sera... c'est l'Ifremer qui est le patron du bateau et la société Génavire qui gère toute la flotte d'Ifremer. Donc on sait que déjà, on va avoir deux nouveaux bateaux. Les bateaux ont tendance à être de plus en plus grands, que ça soit... au niveau des bateaux commerciaux, mais aussi de la marine nationale. On voit bien les P400 et on voit maintenant les POM. C'est des nouveaux bateaux. J'ai discuté avec les gens de la marine nationale. En remplacement du Vendémiaire, de la frégate le Vendémiaire, le bateau, il sera beaucoup plus gros. Et sans cesse, on a besoin d'avoir des bateaux plus importants.
Et on se souvient que pour accueillir les POM, il avait fallu faire des travaux d'aménagement sur la base navale, d'ailleurs.
Exactement. Exactement.
Sachant que ces navires, aussi les navires scientifiques ont des besoins bien spécifiques de stockage, d'endroits réfrigérés. Donc c'est des besoins spécifiques que la Nouvelle-Calédonie ne possède pas du tout et qui peuvent être aussi du coup un argument d'attractivité du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, on a à peu près 8 navires océanographiques, de recherche, des câbliers, 8 navires qui passent par an. Si on a les infrastructures pour les recevoir,
il y en aura forcément plus.
On peut forcément en recevoir plus avec tout ce que ça génère de stimulation de la connaissance, de la technologie et de l'innovation du territoire.
Oui, Danis.
Aujourd'hui, sur ces navires scientifiques, ils sont effectivement stationnés au quai des scientifiques, qui est extrêmement limité, qui n'est pas en bon état, qui est limité à des navires de maximum de 35 mètres. Là, les navires dont on parle sont des navires qui font 50 mètres et plus, jusqu'à 70 mètres. Donc il faudra des nouvelles infrastructures. Il faudra effectivement, comme dit Soisic, des infrastructures qui soient adaptées avec tous les services connexes que nécessitent ces navires. Mais les retombées, elles sont multiples, parce qu'un navire scientifique, c'est un navire qui va avoir des drones sous-marins. Ça va demander des expertises locales, ça va demander des centres de données avec des liaisons fibre optique. Il y a énormément de métiers connexes qui viennent embarqués sur ces navires et qu'il faudra servir. Donc la Calédonie, elle a une place à jouer dans l'Ouest Pacifique sur ce type de navire. Et il y a également la coactivité avec tout le milieu scientifique. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir deux navires principaux. Donc Marc l'a dit, le navire de la CPS qui arrive et le Michel Rocard. Il y en a d'autres qui croisent dans les eaux, Soisic l'a dit, par exemple les câbliers. Donc il y a énormément de poses de câbles sous-marins. Pour
on en a vu de temps en temps, effectivement, voilà, la petite rade qui stationnait pendant longtemps. Oui.
Il faut savoir qu'il y a un câblier français, armé par un navire français, qui est stationné au Fidji. C'est un peu dommage que ce navire ne puisse pas être stationné en Calédonie.
Alors, à vous entendre, et avant de parler peut-être d'un projet qui est un peu différent, qui est celui de l'aquaculture, par rapport aux quatre autres projets dont on a déjà parlé, on a beaucoup parlé de diversification économique en Calédonie. On sait qu'elle a été longue et difficile à être envisagée parce que la mine prenait beaucoup de place. Est-ce que vous avez l'impression, en vous entendant parler, il y a plein de choses à faire, que finalement ce domaine de l'économie bleue a pris du retard par rapport à ce qui aurait pu être fait il y a des années en Nouvelle-Calédonie, Marc Sabatier?
Ah oui, je pense que de toute façon, tant qu'on n'a pas d'infrastructure, et ça ne peut pas être des choses qui sont financées par des privés, parce que c'est trop compliqué, dans tous les pays du monde, c'est financé par l'État, et ça coûte très cher, bien évidemment. Mais tant qu'on n'aura pas ces infrastructures primaires, ça sera difficile de pouvoir prétendre à développer l'économie maritime en tant que telle. Quoi.
Mais cette économie, à vous écouter les uns et les autres, elle existe vraiment. C'est-à-dire que le potentiel est là. Quoi.
Ah, alors, complètement.
Ce qui se passe, c'est que là, on a lancé au sein du cluster un observatoire de l'économie maritime, dont on aura les résultats en début d'année 2025, qui va déjà nous apporter... les premiers indicateurs en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'emplois, etc. Et à partir desquels on pourra se baser sur, à 2025, quelle sera l'évolution et effectivement peut-être grossir le prisme du maritime en Nouvelle-Calédonie.
Il y a un sixième projet dont on n'a pas parlé, qui est le projet de la Grande Plaisance, mais c'est également un projet de diversification. Alors pourquoi on n'en parle pas? C'est notre projet un peu joker. C'est que c'est un projet qui a fait l'objet d'une controverse. Donc dans la phase de prise de décision, avec notre méthode... Comme les gens devaient parier sur le projet est prioritaire ou le projet n'est pas prioritaire, ça c'est le projet de la Grande Plaisance a reçu autant de gens qui sont pour que contre.
Pour les gens qui ne sont pas forcément au courant, c'est quoi la Grande Plaisance ?
Alors la Grande Plaisance, ça va concerner tous les navires de plaisance qui font plus de 35 mètres. On parle de yachts, de personnes fortunées qui ont des navires soit à moteur, soit à voile, qui font plus de 35 mètres.
Qui sont et qui croisent dans la région.
Et qui croisent dans la région, soit pour des intérêts touristiques, soit pour des intérêts logistiques, parce qu'on est dans le bassin pacifique qui va rejoindre donc, les routes maritimes entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On est sur la route de ces navires. Donc soit l'équipage souhaite s'arrêter en Nouvelle-Calédonie pour des arrêts techniques et de maintenance et de ravitaillement, soit le propriétaire souhaite lui aussi venir en Calédonie pour visiter. Ces bateaux, on en capte, il y a eu beaucoup d'activités, mais pas suffisamment, pour des raisons notamment de service à ces navires. Ouais, c'est des navires qui dépensent beaucoup d'argent. Hein.
Le sixième projet qui est un projet caché pour l'instant, c'est mais ça. Qui peut émerger à n'importe quel moment. Un mot peut-être, Marc Sabatier, parce qu'il y a ce projet de développer l'aquaculture durable en Nouvelle-Calédonie. C'est un secteur un petit peu différent, bien évidemment, par rapport aux autres, mais qui fait partie de l'économie bleue au sens général. Là aussi, il y a des choses qui existent déjà quand même en Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait. En fait, ça serait plutôt relancer l'aquaculture durable. C'est très compliqué, l'aquaculture. Alors là, c'est vraiment un volet de la crevette, mais pas que, puisqu'il y a eu des essais sur le poisson, les holothuries, les huîtres, et des choses comme ça. Là c'est un secteur qui est en souffrance. Pourquoi ? Parce que la crevette, on l'étudie depuis à peu près une cinquantaine d'années. Le cochon, ça fait plus de 3000 ans, donc on maîtrise parfaitement.
On a un peu de retard sur la crevette, oui.
On a vraiment une maîtrise quand même assez importante. Malgré tout, même pour les élevages de cochons, il y a des problèmes, mais on sait les traiter. Là, la crevette, eh ben, ils mettent beaucoup de temps à comprendre, parce que quand vous ensemencez un bassin avec des bébés crevettes, c'est à la fin, vous rendez compte vraiment de combien vous allez avoir de taux de mortalité. Alors, ils ont beau faire des éprouvettes et de pouvoir quantifier, mais en attendant, c'est à la fin de la récolte que vous rendez compte que vous pouvez avoir jusqu'à 70% de pertes. Et quel que soit l'élevage que l'on fait, s'il y a autant de pertes, c'est compliqué. Alors, il y a des problèmes de post-larves, donc pour pouvoir ces bébés crevettes, pour être simple pour tout le monde. Il y aurait vraiment besoin de refaire une nouvelle écloserie avec des nouvelles techniques. La crevette qui est élevée en Nouvelle-Calédonie, c'est une crevette qui n'est plus élevée à l'origine. Elle vient du Mexique. Et il y a eu tellement de maladies dessus que c'était des crevettes naturelles, hein, sauvages. Et on a eu la chance de l'avoir importée en Nouvelle-Calédonie. C'est un produit vraiment excellent. Très bonne qualité. Et les gens qui le commercialisent en Nouvelle-Calédonie à l'export, ils pourraient... Alors, ils ont augmenté leur prix à l'export de 30 ou 40% et ils pourraient doubler... Ils ont une demande pour doubler la quantité qui est produite sur le territoire. Donc, c'est vraiment un produit d'extrême qualité.
Et alors là, qu'est-ce que le projet du cluster peut amener dans le développement ? Qu'est-ce que vous entendez par développement de l'aquaculture ?
Alors, c'est vraiment relancer tout ce qui peut être fait pour trouver des solutions pour pouvoir produire plus au niveau de la Calédonie. On a la chance d'avoir un littoral qui est quand même assez important. Il y a un peu plus de 700 hectares de bassins déjà qui existent et je pense qu'on peut encore en faire d'autres. Ça participe au développement de toute la Calédonie. Il y a des pêches saisonnières, donc ça peut faire travailler des gens de temps en temps pour au moment des pêches. Enfin, c'est vraiment...
Même si c'est un secteur aussi où on le sait, où il faut travailler à l'export et qu'il y a des problèmes sur les lignes aériennes. Enfin voilà, il y a aussi un tas de choses à régler derrière.
Hein. Oui, alors c'est le deuxième produit le plus exporté après le minerai. Ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est près de 1700 tonnes, je crois, à l'année, quelque chose comme ça.
Qui a vocation à augmenter, mais effectivement, il y a de vrais enjeux de recherche et développement, de montée en compétences. Donc là, dans la fiche projet, il y a des partenariats avec l'Australie, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, pour essayer d'aller voir ailleurs comment ça se passe et pourquoi ça fonctionne mieux ailleurs, et d'organiser annuellement des ateliers techniques de l'aquaculture pour monter en compétences.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous présenter cette démarche du cluster maritime et ces projets qui sont visiblement consultables, c'est ça, Soazic, on peut le dire, Soazic Fleury, sur le site du cluster. Il y a les fiches projets, donc tout est détaillé. Les gens qui sont intéressés peuvent aller prendre les renseignements. S'ils sont intéressés pour s'engager dans l'un de ces projets, ils peuvent vous contacter aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Il n'y a, pas de problème. Voilà. Et puis on attendra le début d'année prochaine la fameuse enquête que vous attendez sur les potentiels développements économiques. On sera heureux d'en reparler avec vous. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission.
Merci.
Merci.